Bien-aimés, que Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonsoir, plutôt, parce que quand vous allez écouter cet enseignement, il fera déjà noir et vous serez dans le confort de votre maison sous cette belle saison d'hiver que nous avons. Il y a quelques jours, nous avons eu une belle tempête. Au moment où ce que j'enregistre, on vient de finir, sortir de cette tempête et je pense que tout le monde est pas mal content d'avoir un peu de neige pour se dégourdir les jambes un peu, sortir, pelleter, aller jouer avec les enfants, bref. Probablement qu'à part le Seigneur Jésus-Christ, la neige est la seule chose qui est un peu normale dans ces temps-ci. Mais bref, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et bienvenue à cet enseignement. Sur le service en temps de défi. Vous remarquerez que j'ai un petit pansement au-dessus de l'œil gauche et je tiens à clarifier, non, ce n'est pas mon épouse qui s'est amusée à la boxe avec moi. C'est plutôt une petite infection au-dessus de l'œil, rien de vilain, mais quand même. On a décidé de cacher un petit peu ça pour que ce ne soit pas trop distrayant pour vous, qu'on puisse bien se concentrer sur l'enseignement, sur la parole. Donc, on va prier. On va remettre ce temps dans les mains du Seigneur. On est à la semaine 34 et on continue dans le fond sur le passage où est-ce que Marc nous relate la transfiguration. Donc, nous allons prier et par la suite, nous allons faire la lecture et nous allons par la suite faire un petit résumé de la session précédente. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, que tu nous permets, Seigneur, d'être réunis autour de ta parole, Seigneur, pour apprendre de toi, pour être instruit, Seigneur, par toi, pour être, Seigneur, formé par toi. On te demande, Seigneur, que tu puisses couler, Seigneur, comme des courants, Seigneur, d'eau vive, et que cela puisse rafraîchir, Seigneur, nos cœurs, nos pensées. Que ta parole, Seigneur, soit efficace aujourd'hui, Seigneur, pour nos vies, pour nos cœurs. Et bénis chaque personne qui est présente, Seigneur, qui écoute cet enseignement, Seigneur, qui va y participer avec son cœur disposé. Et tous ceux, Seigneur, qui peut-être par la suite viendront se joindre ou qui écouteront, Seigneur, cet enseignement. Tout ceci est pour ta gloire et ton honneur. Et merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de te servir. Le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, allons dans Marc au chapitre 9. Nous allons lire du verset 2 au verset 7. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'emphase sur un verset en particulier. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Donc, Marc chapitre 9, verset 2, nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. La semaine dernière, nous avons vu que suite aux révélations, que Jésus apporte dans le chapitre 8, révélation par rapport à son identité, révélation par rapport à l'Église, par rapport à la vie du disciple, par rapport à sa vie, son mandat, sa mise à mort, ses souffrances, sa résurrection. Tout cela, eh bien, les disciples s'y attendaient pas. Tout cela était nouveau, était troublant, était choquant même pour Pierre. Et donc, il fallait quelque chose pour redonner confiance. Que les disciples entendent leur maître, leur Seigneur dire qu'il va mourir, qu'il va souffrir, Alors que pour eux, leur conception du Messie était totalement différente. Il fallait quelque chose de plus fort, de plus grand. Jésus ne pouvait pas revenir à des miracles qu'il avait déjà fait dans le passé. Il fallait quelque chose de plus qui vienne leur convaincre qu'effectivement, Jésus est le Messie, qu'effectivement, Jésus reviendra en gloire et qu'un jour, nous verrons la gloire et qu'un jour, nous serons tous qui sommes avec lui, nous serons dans la gloire avec lui. Et c'est là qu'on retrouve cet événement qui est la transfiguration. Et donc, le chapitre 8 sert aussi de préparation à cette révélation-là. Et des fois, nous, on court après des révélations. On veut que Dieu nous révèle des choses, mais on ne laisse pas Dieu nous préparer. On ne laisse pas Dieu mettre en place ce qui est nécessaire. Une révélation, Dieu ne révèle pas juste quelque chose pour le fun, parce que ça nous tente à nous, parce qu'il nous le demande. Il y a toujours un but précis, il y a toujours un objectif, ou plusieurs objectifs, parce que Dieu travaille sur différents plans en même temps. Et donc, la préparation du cœur est importante. Et durant tout le chapitre 8, on voit que Dieu enlève des voiles. L'aveuglement qu'ont les disciples, qu'ont les gens, Dieu commence à traiter cela, il commence à enlever les voiles pour leur permettre justement de voir Jésus, d'avoir un nouveau regard sur Jésus et donc une nouvelle révélation de Dieu. On a vu que Jésus est allé avec les trois disciples sur une haute montagne et on connaît maintenant que la signification de cela est symbolique, est importante parce que monter à une montagne veut dire s'éloigner, se mettre à l'écart des choses qui sont terrestres pour s'approcher, pour s'attacher même aux choses qui sont célestes, aux choses qui sont de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que c'est dans cette condition-là qu'on retrouve Dieu se révélant. Il s'est révélé à Moïse en haut de la montagne. Il s'est révélé à Élie en haut de la montagne, lorsqu'Élie était dans la caverne. Donc, c'est important de garder ça en tête aussi, que ce n'est pas en étant attaché à nos choses terrestres, en priorisant les choses terrestres, qu'on va nécessairement avancer dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait un temps à part où est-ce qu'on cherche Dieu, on s'attache aux choses à Dieu. On a parlé de Moïse, on a parlé d'Élie, c'est les deux témoins qui sont présents sur la montagne, qui apparaissent. Et la Bible nous dit qu'ils s'entretiennent avec Jésus, qu'ils parlent du plan de Dieu et du plan de Dieu pour Jésus d'aller à Jérusalem pour mourir. Et on avait vu qu'un enseignement là-dedans, c'est l'importance pour les ouvriers, pour nous qui servons le Seigneur, pour nous tous, serviteurs de Dieu, hommes et femmes qui suivons le Seigneur, de s'entretenir sur le plan de Dieu. Probablement que Moïse et Élie étaient en train d'encourager Jésus pour leur dire, « Vas-y, c'est la voie, c'est la bonne voie, tu es sur le bon chemin, lâche pas. Nous, on a travaillé pour que toi, tu te rendes ici. Donc, vas-y parce que tout va changer par la suite. » Ils s'entretiennent sur le plan de Dieu. Et je pense que c'est important que nous puissions également apprendre dans nos échanges à partager le plan de Dieu, à s'encourager dans le plan de Dieu, dans le service, à prier les uns pour les autres, à s'exhorter, à se soutenir également mutuellement. Je pense que cela est quelque chose qui a besoin d'être encore plus présent aujourd'hui, où tout le monde semble isolé, où tout le monde semble, où le contact, l'échange est plus difficile et moins naturel. La dimension spirituelle demeure toujours. Et donc, ce besoin-là de s'entretenir, de s'encourager les uns les autres est important. Donc, peut-être cette semaine, encourager quelqu'un, vous pouvez encourager un pasteur, vous pouvez encourager un ouvrier, quelqu'un qui est dans un pasteur du réseau, quelqu'un qui est Costa Rica, en Amérique centrale, ou nos bien-aimés en France, prenez le temps. Prenez le temps d'écrire un mot, de faire un appel conférence peut-être avec quelqu'un et juste de l'encourager dans le plan de Dieu. C'est important. Ce qu'on a appris également, que les moments et les expériences glorieuses que nous vivons. Et là, je fais référence à Pierre, que lorsqu'il voit ça, il dit « Parfait, élevons ici une tente, restons ici, on est dans la gloire de Dieu, restons ici, on est bien, pas besoin de descendre en bas, il y a plein de problèmes, tout est négatif en bas. » Puis on est bien ici, pas besoin d'aller, de souffrir, pas besoin pour Jésus d'aller à la croix. On est bien ici. Et des fois, on a la tendance aussi de lorsqu'on vit quelque chose, on expérimente quelque chose avec le Seigneur, qu'on veut demeurer là, ou qu'on recherche à revivre cette expérience-là. Et bien souvent, cette expérience-là, elle ne revient pas. Elle ne revient jamais. Et la raison est que, premièrement, Dieu a d'autres choses devant nous, encore meilleures. Et Dieu veut qu'on se porte vers l'avant, pas qu'on reste statique sur une expérience. Et l'autre chose, c'est que les expériences que nous vivons sont pour nous encourager à continuer. Tout comme Moïse et Élie, probablement qu'ils encourageaient Jésus, était en train d'encourager les disciples et est en train de nous encourager à poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense qui est glorieuse. Donc, à nous encourager à persévérer dans le service, à persévérer dans la foi, à persévérer en portant la croix et à payer le prix qui est nécessaire. Et finalement, la voix de Dieu qui confirme Jésus. Cette voix qui se fait entendre depuis la nuée et qui dit dans le fond, faites confiance à Jésus. Donc, c'est la confirmation de tout ce qu'on est en train de parler, de ce besoin pour les disciples d'avoir confiance dans le Seigneur que même s'il allait à la mort, il serait victorieux. Que même s'il le verrait souffrir, il serait glorieux. Et là, cette voix confirme Jésus. Et le message est de lui faire confiance. Et c'est la question pour nous aujourd'hui. Faisons-nous confiance ou allons-nous faire confiance aujourd'hui? Et allons-nous nous disposer pour écouter la voix de Dieu? En 2021, la voix de Dieu qui voudra certainement confirmer des vérités du royaume de Dieu dans nos vies. Alors, voilà le résumé pour la session passée. Cette semaine, et là, je vais partager l'écran juste pour qu'on ait la présentation. Voilà. OK. Donc, cette semaine, on va se concentrer sur un verset que la semaine dernière, on n'avait pas mis d'emphase et je pense que c'était à propos. Au fait, ce n'est pas moi qui l'a fait comme ça. La semaine passée, Dieu m'a attiré mon attention sur d'autres détails. Et ce qui est drôle, c'est que pour cette semaine, j'avais écrit moi déjà, j'avais préparé toute une étude. Mais lorsque je suis arrivé pour le mettre au propre dans la présentation, le Seigneur a tout changé. Le Seigneur a amené mon attention sur le verset 3. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui, le verset 3. Donc, c'est des choses qui arrivent des fois. Certains prédicateurs ont déjà dit aussi qu'une fois qu'ils sont devant la tribune, au moment de prêcher, Dieu leur donne un autre message. Et donc, on doit être disposé, on doit être prêt. Ce sont des choses qui arrivent avec le Seigneur. Donc, l'emphase aujourd'hui va être mise sur le verset 3 qui dit « Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Voilà, on a lu le verset 3 et je veux attirer votre attention sur ce mot qui attira mon attention à moi, qui est le mot blancheur. Blancheur, on le voit dans plusieurs passages dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, on parle de vêtements. et on parle de vêtements blancs, et on va en discuter un petit peu dans les prochaines minutes. Ce qu'on peut dire par rapport à ce mot-là, c'est que dans la version grecque, c'est le mot logos, qui veut dire lumière, quelque chose qui est vif, qui est brillant et qui est d'un blanc éblouissant. Donc, ce n'est pas juste la couleur blanche, ce n'est pas juste une blancheur. Et dans la description de Marc, il dit qu'il n'y a pas de foulon, c'est-à-dire qui sert à nettoyer, qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir autant. Donc, c'était un blanc brillant, étincelant, même éblouissant, qui éblouissait les yeux. Et il faut remarquer une chose, c'est que Marc, dans sa description de Jésus, dans cet événement de la transfiguration, parle juste des vêtements. Chose que Matthieu, par exemple, si on prend l'exemple de Matthieu, Matthieu va parler du visage de Jésus qui se transforme et qui devient lumineux comme le soleil, comme la lumière du soleil. Et Marc, dans le fond, pas qu'il ne met pas d'importance, mais il ne met pas le focus sur le visage de Jésus ou sur le corps de Jésus, mais dans les descriptions qu'on voit ici, il parle juste des vêtements. Il fait seulement allusion aux vêtements que porte Jésus et qui, à ce moment-là, deviennent blancs, d'un blanc étincelant. Ce qu'on doit comprendre ici, et il y a un but avec ça. N'oubliez pas que Marc présente Jésus comme le serviteur modèle. Et ça, faut pas l'oublier. Revenons à l'image des vêtements blancs. C'est une image qui est symbolique parce que ça signifie, dans le fond, ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, ceux qui sont, dans le fond, sans péché, qui sont innocents, qu'il n'y a point de faute, point de culpabilité et point de conséquence due à une culpabilité, due à une faute ou à un péché. Donc, c'est l'état de ceux et celles qui sont totalement sans péché. Ça nous parle de pureté, ça nous parle de sainteté, ça nous parle de justice, d'innocence, mais ça nous parle de pureté dans tout ce qui compose l'être humain, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. Certains pensent que c'est juste quelque chose d'une dimension spirituelle, mais ça parle d'un état entier de pureté, donc qui inclut l'âme, l'esprit et le corps. Et ce qu'on comprend ici, c'est que Jésus, lui, est allé à la croix. En allant à la croix, il est allé pour laver, nous laver de nos péchés, est allé pour nous donner sa pureté, pour enlever le péché du monde, donc enlever le péché de nos vies, l'impureté, et donc pour nous donner des vêtements blancs, des vêtements qui sont purs. Comme je vous ai dit, les vêtements, on les retrouve autant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde Exode, on voit que les sacrificateurs portaient des tuniques, portaient des caleçons, portaient plusieurs des vêtements que les sacrificateurs portaient étaient blancs, étaient de fin lin blanc. Et donc, dans l'Ancien Testament, on retrouve cela. Mais on retrouve aussi dans l'Apocalypse que tous les anges, tous les êtres vivant autour du trône de Dieu, donc incluant les vieillards, et incluant toute la multitude des rachetés, de tous les enfants de Dieu qui auront accepté Jésus-Christ, qui auront eu la foi en Jésus, qui ont été lavés par leurs péchés, auront été lavés par le sang de l'agneau, aussi vont avoir des vêtements, des tuniques blanches. Le lien qu'il faut faire ici, c'est que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs portaient des vêtements blancs. Bien sûr, ils portaient d'autres choses, mais leur tunique était blanche. Et ils les portaient pour servir l'Éternel que ce soit à l'époque de Moïse avec le tabernacle ou à l'époque du temple. Les sacrificateurs portaient des vêtements blancs qui représentaient cette condition-là de pureté pour être au service devant l'autel. L'autel de sacrifice et pour le souverain sacrificateur, une fois par année, pour présenter l'offrande dans le lieu très saint. Dans Apocalypse, dans la révélation des derniers jours et de la nouvelle création, on voit que les anges, les vieillards, sont tous au service de Dieu. Et que dans le fond, nous-mêmes, toute cette multitude de croyants qui seront un jour avec le Seigneur et que nous serons éternellement avec lui, ce sera également pour l'adorer, pour le servir. Donc, le vêtement blanc représente le service, représente pas juste la condition de pureté, mais représente la condition de pureté qui est requise pour le service. On le voit donc autant dans l'Ancien Testament, autant dans les derniers jours, la révélation des temps à venir, et on le voit à ce moment-là, au milieu entre ces deux époques, on le voit avec Jésus, portant des vêtements qui sont blancs. Donc, les vêtements blancs représentent cette condition de pureté qui est requise pour servir Dieu. On va maintenant parler du lin, du matériel qui était utilisé pour ces tuniques ou pour ces vêtements-là. Bien, en hébreu, le mot lin est bad, mais dont l'origine serait badad. Et badad veut dire être séparé, mis à l'écart. Et donc, le lin représente cette consécration. Donc, le fait que les sacrificateurs, le fait que tous les êtres vivants dans le royaume de Dieu portent du blanc et que les rachetés portent des vêtements de fin lin blanc, démontrent une séparation, démontrent qu'ils sont mis à l'écart pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Et donc, consacré à Dieu veut dire séparé, séparé du péché et séparé du monde. Et donc, le fait de porter, d'être associé avec le lin, nous parle, est une symbolique encore ici qui nous parle de cette séparation, mais pas juste de cette séparation. On ne fait pas juste se séparer du péché et du monde. Et lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas des gens, on parle du système avec ses valeurs qui sont anti-bibliques. Ce système qui est organisé, contrôlé, où est-ce qu'on retrouve toutes les tentations, les passions du monde, qui est contrôlé par le diable. Donc, cette séparation-là du monde, mais cette consécration aussi à Dieu. Quelques caractéristiques intéressantes par rapport au lin blanc, c'est que plus le lin est lavé, plus il devient doux. Plus le lin est lavé, plus il devient blanc. Et ça doit nous parler beaucoup aussi parce que deux éléments sont importants et sont requis et les apôtres nous en parlent dans les épîtres et c'est l'importance d'avoir un caractère doux. C'est l'importance de faire preuve de charité, de compassion, de bonté, de gentillesse, d'humilité. Donc, plus nous sommes lavés, plus cette transformation va se vivre dans notre caractère, en nous, qui va nous rendre plus doux, plus compatissants, qui va venir briser le brisement ou la dureté du cœur. qui va nous rendre davantage comme le serviteur, le modèle de serviteur que nous a présenté Jésus-Christ en chair. L'autre chose, c'est que plus il est lavé, plus il devient blanc. Ça nous parle de la pureté et ça nous parle que plus nous allons avancer avec le Seigneur, plus nous allons être lavés, plus nous allons être aussi séparés du péché. Et ça, ça veut dire que c'est un processus. Certains parlent que, ils disent que la transfiguration n'a pas eu lieu dans un clin d'œil, mais que les disciples ont vu une progression de cette transfiguration-là, de cette transformation de Jésus. On n'a pas de preuves, mais certains avancent cela. Mais bref, pour nous, ce qui est important, c'est que nous sommes dans un processus de transformation où certainement notre cœur est appelé à être plus doux et notre cœur est appelé à être plus pur. Et ça, ce sont deux requis, deux conditions tellement essentielles pour tout enfant de Dieu et donc pour toute personne qui sert le Seigneur. Donc, plus le lin est lavé, plus il devient doux et plus il devient blanc. Ceci nous amène à constater qu'on est devant un défi ici. Et c'est un défi qui ne concerne pas juste notre génération, où est-ce qu'on peut se dire, oh mon Dieu, on vit tellement dans un monde à l'envers, où il y a tellement de péchés, il n'y a jamais eu autant de tentations. À chaque époque, les croyants ont eu leurs défis, ont eu leurs luttes, ont eu les tentations. Et à chaque époque, il y a eu ce défi-là pour le peuple de Dieu de se conserver pur, d'avoir une vie qui soit pure. C'est pas d'hier, c'est pas de ce matin là, que ce concept-là ou que cette réalité est présente depuis le début. Tout enfant de Dieu, tout croyant, peu importe sous quelle alliance ce croyant se trouve ou se trouvait, il avait le défi ou elle avait le défi de conserver une vie qui est pure, qui est à l'image de Dieu. Et ça, on le voit avec quelques passages, donc j'en ai présenté deux, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, dans Ecclésias, chapitre 9, verset 8, il dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » C'est-à-dire qu'en tout temps, tu puisses avoir une conduite, tu puisses avoir une vie qui est caractérisée par l'intégrité, par la pureté, par la justice, la sainteté de Dieu. Et que l'huile ne manque point sur ta tête, c'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit non plus ne manque jamais. Que la communion avec Dieu, la manifestation de Dieu dans ta vie ne manque jamais. La présence de Dieu, qu'elle ne manque jamais. Mais regardez qu'il y a un ordre. Premièrement, on parle de la pureté et par la suite, on parle de la présence de Dieu. Ne renversons pas l'ordre. Beaucoup de gens veulent connaître Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église pour avoir une expérience avec Dieu, mais ils n'ont aucunement la compréhension de l'importance d'avoir une vie qui est pure. On a besoin d'avoir cette pureté en nous, de la rechercher. Si on veut que cette huile ne manque jamais sur notre tête, veillons à ce que nos vêtements soient blancs. Donc, c'est un concept, c'est une réalité qui était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance également, il y a beaucoup de passages qui parlent justement de l'importance de la pureté, de la sainteté. Et j'en ai juste choisi un, lorsque Paul parle à Timothée, il dit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pur. » Toi-même, conserve-toi pur veut dire tu es dans un état pur. un état de pureté t'a été donné. Conserve-le. Tu as été sanctifié. Tu as été mis à l'écart. Tu as été purifié. Conserve cet état. Fais tout ton possible pour pouvoir te garder dans cet état-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Lorsqu'il dit « conserve-toi pur », il n'est pas en train de dire que le Seigneur te conserve pur. Il n'est pas en train de dire que l'Esprit de Dieu te saisisse et te garde dans la pureté. Il dit à Timothée, toi, conserve-toi pur, toi-même. Il n'est pas en train de dire non plus, c'est le pasteur qui va venir faire ce travail-là lorsqu'il va venir prêcher le dimanche. Non, ce n'est pas le mercredi soir lorsque tu vas écouter l'étude biblique que tu vas être pur. Il dit toi-même, donc moi-même, nous avons cette responsabilité-là de nous conserver purs. Et je répète, c'est une condition qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Jésus-Christ, par la croix, nous a donné des vêtements blancs. Essayons et tâchons de les conserver blancs pour le servir, pour être à son service. Maintenant, vous allez me dire, OK, ben, comment on s'y prend? Et c'est vrai que nombre de fois, on nous dit, soyez saints, soyez purs, mais on ne nous dit jamais comment. Ou on met beaucoup d'emphase sur l'importance de la sainteté de Dieu, l'importance, par exemple, de se garder pur. Mais rarement, on nous dit et on développe des astuces, des conseils, des choses pratiques qui nous permettent justement d'appliquer la parole de Dieu pour justement garder une vie pure. Et là, on va en discuter un petit peu. Avec quelques versets, bien sûr, moi, je ne veux pas m'appuyer sur une autre sagesse que la sagesse de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit de nous conserver purs, bien, la parole de Dieu aussi va nous dire comment. Et il s'agit d'y chercher. Et dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, mais vous pourriez lire jusqu'au chapitre 2, le verset 2, il est dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Nous sommes mutuellement en communion. Donc, si nous marchons dans la lumière, si nous marchons sous le regard de Jésus-Christ, si nous marchons sous le regard de sa parole, si nous vivons d'après la parole de Dieu, si nous sommes en communion avec Christ, si nous avons une relation avec Christ, pas une religion. Le fait de venir à l'Église ou d'écouter la parole de Dieu ne fait pas de vous un croyant. Si vous avez une religion, ce n'est pas ça qu'on fait allusion ici. On ne parle pas de ça. On est en train de parler de... Pardon, ici, j'ai eu une petite pause. Reprendre le partage. Voilà, OK. Si on nous parle ici de communion, c'est pas de religion, c'est pas de tradition, c'est d'avoir une relation avec Jésus, un partage avec le Seigneur qui est régulier, qui est quotidien. Et lorsque nous sommes mutuellement en communion, eh bien, c'est une protection. La communion avec Jésus est une protection contre les impuretés. Et le sang de Jésus nous purifie constamment de tout péché. Un autre verset qui est un passage un peu long, mais qui est également important, il dit, c'est Pierre qui dit cela, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science à la tempérance la patience, à la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Ici, on nous parle de mettre, de faire tous nos efforts. C'est-à-dire que y a un travail que nous avons, qui est nécessaire de faire. C'est que notre foi ne peut pas juste rester une foi. La foi doit grandir, elle doit se développer, elle doit porter du fruit. Donc, la vertu, la connaissance, la tempérance, qui est le contrôle de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Donc, il dit, au lieu, lorsque vous investissez dans ces choses-là, lorsque vous investissez votre vie à rechercher que dans votre vie il y ait la vertu, qu'il y ait de la connaissance, de la sagesse de Dieu, qu'il y ait la tempérance, qu'il y ait la patience, la piété, eh bien, vous n'aurez pas le temps pour les choses impures, pour les choses qui vont venir, qui pourraient venir vous tâcher, qui pourraient venir vous rendre impur devant Dieu. Parce qu'il dit, parce que si ces choses sont en vous, et ils ne sont pas à un petit degré, mais ils sont en abondance, c'est-à-dire, vous n'allez pas être sans fruit, vous allez porter du fruit. La connaissance de Jésus-Christ va être grande, va être riche et profonde en vous. Et ça va vous permettre également d'avoir un discernement, d'avoir une vision très large et très vaste des choses qui se passent de Dieu et des choses qui se passent autour de vous. Mais celui qui ne fait pas ça, bien, il devient aveugle. Et c'est drôle parce qu'on parle justement de l'aveuglement au chapitre 8. Celui qui ne fait pas ces choses ou qui ne s'investit pas dans ces choses-là, eh bien, il va vivre une régression spirituelle qui va le rendre aveugle et qui va même le faire oublier la purification de ses anciens péchés. Donc, il va même lui faire oublier son état pur. Il va lui faire oublier sa condition, la condition qu'il a reçue, l'état qu'il a reçu à la croix. Il va probablement l'amener à retomber dans ces choses-là. Donc, pour se conserver pur, la communion avec Jésus-Christ, c'est une protection. Et le sang de Jésus nous purifie. Mais ajoutez à cela de rechercher à ce que la foi reste pas juste une foi, puis oh, je fais confiance à Dieu. Voilà, je vis par la foi. Non, de rajouter à la foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Lorsque notre pensée s'édifie dans ces choses-là, eh bien, on n'aura pas le temps. Et ça va être également une protection pour nous, pour se conserver pur. Donc, une vie en communion avec Jésus qui fera croître en nous sa nature divine. Parce que tous ces éléments-là qu'on trouve dans 2 Pierre sont un descriptif aussi du caractère divin de Jésus-Christ. Et ce caractère-là est appelé à prendre forme en nous et à grandir en nous. Pas juste un petit peu, en abondance. En abondance. Donc, recherchons, aspirons vers une vie en abondance dans ces éléments-là que la Bible décrit. Pas un petit peu, en abondance. Et pourquoi en abondance? Parce que des tentations, parce que des passions, parce que les plaisirs qu'il y a dans le monde, ils sont en abondance aussi. Et donc, l'importance de nous-mêmes abonder dans les bénédictions de Dieu, dans la nature du Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va avoir trois actions, trois stratégies qu'on retrouve dans un verset qui m'ont beaucoup aidé et qui certainement vont beaucoup vous aider et vous parler aussi. Et pour cela, nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a trois stratégies ici, ou trois actions. J'avais dit, je voulais amener de quoi qu'il soit pratique. Voilà qu'est-ce qu'on va voir de pratique ici. La première stratégie, fuis les passions. Lorsqu'il dit fuis les passions de la jeunesse, donc fuis les passions, fuis les convoitises de la chair. Lorsqu'on parle de cette fuite-là, bien, on pourrait le voir sur trois dimensions. Un, c'est de fuir mentalement, donc au niveau de la pensée. Toute action qu'on entreprend, toute décision qu'on prend, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle nous conduise vers la vertu, qu'elle nous conduise vers la pureté ou qu'elle nous conduise vers le péché, a pris origine dans la... commencer avec une pensée, avec une idée. Donc, ça commence dans le petit coco. Et donc, fuir, ça veut dire fuir mentalement, en d'autres mots, c'est de rejeter les pensées qui sont impures. Lorsqu'il y a une pensée qui vient à nous, on a quelques secondes. On a quelques secondes pour décider si on accepte cette pensée-là ou on la rejette. Et si on l'accepte, eh bien, on va la cultiver. Et cette pensée-là va prendre force, va prendre forme et va nous amener à porter des actions, à avoir un comportement. Encore là, un comportement qui soit biblique ou non. Et donc, fuir mentalement veut dire rejeter les pensées impures. Fuir visuellement, ça a rapport avec nos yeux. Où est-ce que notre regard se pose? Est-ce que nos regards vont vers des choses qui sont impures? Ou est-ce que nous posons nos regards là où est-ce qu'on ne devrait pas les poser? Donc, fuir visuellement, c'est de faire attention où est-ce que nous posons nos regards, où est-ce qu'on met nos yeux là. Et fuir physiquement, c'est de se retirer de tout endroit où ce qu'il y a, il y a la tentation de ne pas rester là. De ne pas rester là. De fuir. De se déplacer, de changer d'endroit, de quitter un endroit. Des fois, il n'y a pas d'autre choix. Il faut quitter. Il ne faut pas rester là puis essayer de jouer avec le feu pour dire, je vais voir jusqu'où je peux me rendre. Je vais voir jusqu'où, en bon québécois, je vais toffer. Ce n'est pas l'approche biblique. Et donc, fuir mentalement, visuellement et physiquement. Ça, c'est la première stratégie. Donc, déjà là, peut-être que vous avez un travail à faire et une prise de conscience par rapport à certaines habitudes que peut-être vous avez jusqu'à maintenant qui, sans que vous le sachiez, ça vous amène directement et toujours à la même destination qui est la consommation du péché. Donc, à garder ça en tête. Deuxième point, deuxième stratégie, rechercher la justice, la foi, la charité, la paix. Donc, rechercher, le terme grec pour rechercher est dioko, qui veut dire courir rapidement ou poursuivre et même persécuter. Donc, c'est pas juste de fuir, parce que oui, je peux fuir la passion, mais je me dirige où? Si je fuis, mais je me dirige à aucun autre endroit, il y a de fortes chances que je revienne. Ou il y a de fortes chances que je me retrouve encore dans une situation ou dans un contexte où est-ce que, ben, il va y avoir de la tentation, de la passion. Et peut-être que la première fois, je n'ai pas cédé, mais la deuxième, oui. Et donc, ce n'est pas juste de fuir, mais il faut aussi courir dans une direction. Et cette direction-là, c'est la direction de la nature divine de Dieu. La nature divine du Seigneur, le caractère de Dieu qui est également le caractère de tout serviteur, de toute personne qui veut servir Dieu. Et donc la justice, c'est-à-dire l'intégrité, la foi, la charité qui est l'amour et la paix qui est le calme, qui est l'harmonie. qui est l'unité avec Dieu, eh bien, recherchons, courons après ces choses-là. Aspirons à ces qualités-là dans nos vies. Donc, un, fuir, et deux, courir en direction de quelque chose. Ce n'est pas juste de fuir. Certains arrêtent à, OK, ben, je vais détourner le regard. Et c'est tout. Ben, non, ce n'est pas juste ça. Il y a plus. Et tu peux aller plus loin. Tu peux rechercher des qualités du caractère du vrai serviteur de Dieu. Et c'est le standard. C'est le standard que Dieu a établi dans sa parole pour chacun d'entre nous. Donc, allons vers ce standard-là. Mettons nos efforts pour aller dans ce standard-là. Encore, ceci est pour se conserver pur, parce que c'est le Seigneur Jésus à travers la croix qui nous donne des vêtements purs et qui nous purifie de tout péché. La troisième stratégie, de courir, de rechercher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, courir avec nos bien-aimés, avec nos frères et sœurs, dans ce même objectif, de comprendre que peu importe le frère, la sœur, qui soit, que ce soit un homme ou une femme avec des dons, avec des manifestations de l'onction de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui, tout comme vous, ont besoin de fuir les passions et ont besoin de courir vers les qualités de Jésus-Christ. Et donc, nous tous ensemble, nous pouvons courir vers ce même objectif. Ceci nous parle que la vie en Christ, ce n'est pas une vie isolée. Ce n'est pas moi avec mon combat et mes luttes tout seul et j'essaie de m'en sortir comme que je peux. Et non, Dieu nous a donné une famille. Et donc, nous pouvons avoir des compagnons. Nous pouvons avoir des bien-aimés qui vont marcher avec nous ou qui vont courir avec nous dans cet objectif-là. Des bien-aimés qui vont nous aider dans nos faiblesses et que nous allons aider dans leurs faiblesses. Que nous allons être ensemble, s'encourager, se fortifier mutuellement, se soutenir. Et aller ensemble vers cette quête. Des gens qui vont pouvoir nous aider lorsque on va sentir que la tentation elle est trop forte, qu'on est à veille de céder, qu'on sent qu'on a perdu le contrôle. Des gens qui vont prier pour nous restaurer, pour nous édifier avec la parole de Dieu, qui vont être là dans le combat avec nous. Parce que c'est une lutte, c'est un combat. Et qui vont donc prier, qui vont nous encourager, mais avec qui va pouvoir avoir ce qu'on appelle la redevabilité. Donc, je vais être redevable envers un bien-aimé. Je vais pouvoir lui raconter mes soucis, mes combats. Et cette personne-là va pouvoir aussi venir me voir et me dire, ben, comment ça va dans tel aspect? Comment ça va avec cette passion, avec cette tentation-là, avec que tu as de la misère? Donc, la redevabilité. Et c'est ça le travail d'équipe. C'est ça l'esprit d'équipe qui doit être présent dans l'Église. Et c'est d'autant plus important parce que, remarquez une chose, la Bible nous dit que lorsqu'un esprit impur est chassé de la vie de quelqu'un, et qui était envoyé dans des lieux arides, la Bible dit qu'il se souvient de la demeure, donc du corps, où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il possédait, et qu'il va, il appelle cet esprit encore plus fort que lui pour retourner et reprendre possession de la demeure, du territoire et donc du corps qui possédait avant. Donc l'ennemi, lui, il ne pratique pas l'isolement. L'ennemi, lorsqu'il veut atteindre un objectif, il s'entoure de gens plus forts que lui. Ça doit nous parler, là. Parce que nous, combien de fois on vit notre isolement, on lutte contre des passions, on lutte contre ciel et terre, des fois même. Du moins, c'est l'impression qu'on peut avoir et on sent qu'on est tout seul. On peut être dans une congrégation de 300 personnes et vivre cette réalité-là dans l'isolement, dans la solitude la plus complète. Parce qu'on est gêné, parce qu'on a peur d'être jugé. Mais comprenez une chose, bien-aimés, nous sommes tous appelés à fuir. Donc, nous sommes tous sujets à tomber et à céder aux passions. Elles vont représenter différentes formes. Elles vont venir sous différentes formes. Elles auront une différente approche, mais elles seront là certainement. Et donc, la recommandation de fuir, de rechercher, de courir après la justice de Dieu, la foi, la charité, la paix, ses qualités, et de le faire pas tout seul, de le faire en équipe, de le faire peut-être avec une, deux personnes. Et cette semaine, vous pouvez prier, vous pouvez demander au Seigneur qu'il mette sur votre chemin ces personnes-là qui vont être vos compagnons, avec qui vous allez pouvoir partager sans jugement. Sans jugement. Le chrétien n'est pas appelé à juger. Ça, il faut que ce soit clair. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Personne n'est exempt, personne n'est supérieur ou meilleur à un autre, c'est pas vrai. Même ceux que vous voyez les plus spirituels, ils ont à lutter, ils ont à faire face à des passions. Et ils ont également le défi, et peut-être dans leur cas, c'est encore plus grand, un défi de se conserver pur, de garder leurs vêtements purs. Et donc, prions. Ça pourrait être une intéressante et une bonne requête de prière cette semaine. De ne pas être tout seul. Dans la prière, dans l'encouragement, dans cette poursuite pour se conserver pur. Ce n'est pas une chose à vivre seul. Ce n'est pas biblique. On vient de le voir avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et il y a des gens autour de vous qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Il y a des gens autour de vous qui également aimeraient avoir un compagnon, des amis, des gens avec qui ils peuvent partager ces choses, prier et s'édifier. Donc, ce n'est pas quelque chose non plus à prendre à la légère. N'allez pas choisir n'importe qui et ouvrir votre cœur et votre vie. Ce n'est pas ça. L'important, c'est de prier. Parce qu'il parle d'avoir un cœur pur. Donc, priez que Dieu vous entoure des gens qui ont un cœur pur. Pas des gens qui vont prendre vos secrets ou vos luttes et qui ne seront pas utiles à vous, qui ne seront pas une bénédiction pour votre vie, qui ne seront pas là pour vous édifier, vous encourager. Non. Que ce soit des gens qui ont le cœur pur et qui se soumettent à Christ, qu'ils ont une vie soumise à Christ et qui, tout comme vous, veulent également se conserver pur. Donc, en résumé, aujourd'hui, nous avons parlé des vêtements blancs. Et les vêtements blancs, c'est un symbole de la pureté de l'être tout entier, c'est-à-dire de l'âme, de l'esprit, du corps. Les vêtements blancs représentent la condition de pureté requise pour servir Dieu. On ne sert pas Dieu de n'importe quelle façon. On ne sert pas Dieu dans n'importe quel état. Faisons attention à l'état dans lequel nous servons. Le fin lin blanc, plus il est lavé, plus il devient doux, plus il devient blanc, donc plus il devient compatissant, humble. Et plus il se devient pur. Et ça nous parle d'une vie qui est séparée du monde du péché, qui est mise à l'écart. Ça nous parle aussi d'un défi de tous, de conserver une vie pure en 2021. Et pour se conserver pur, eh bien, on voit l'importance d'avoir une communion avec Jésus qui fera croître en nous sa nature divine. Et juste ça, c'est une protection. C'est une protection contre les passions et les pièges qu'il y a dans le monde. Et finalement, les trois stratégies bibliques qu'on retrouve dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, c'est fuir les passions, fuir mentalement, visuellement, physiquement. C'est de courir rapidement. Donc, pas juste de s'éloigner de ce qui est mauvais, mais de courir dans la direction de ce qui est bon, de ce qui est bien, et de le faire en compagnie de frères et sœurs qui vont être nos compagnons de voyage, qui vont être là pour nous encourager, nous édifier. Parce que c'est pas une vie à vivre en isolement. Il n'y a pas de quarantaine, là. Et dans la prière, il n'y a pas de quarantaine. Et donc, de s'entourer. Personne qui invoque le Seigneur d'un cœur pur, qui n'ont aucune mauvaise intention et qui sont dignes de confiance. Et ça peut être une requête de prière pour nous aujourd'hui. Donc, on va prier. On va remercier le Seigneur pour cet enseignement et on va demander au Seigneur qui nous aide, qui nous montre à chacun d'entre nous comment est-ce qu'on doit, dans notre réalité, comment est-ce qu'on doit conserver cette pureté, cette condition d'état pur. Et également, comment est-ce qu'on peut bien s'entourer pour aller de l'avant dans le service, pour aller de l'avant dans cette vie extraordinaire que nous avons dans le Seigneur Jésus. Prions. Père éternel, on te remercie pour ta parole, pour l'enseignement, Seigneur, des Écritures qui nous parlent, qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous font voir, Seigneur, tellement de vérités, tellement de choses qui sont importantes et essentielles pour nous, encore aujourd'hui en 2021. Je te demande, mon Seigneur, de nous aider. De nous aider, Seigneur, à garder cet état de pureté qui touche l'âme, qui implique l'esprit et le corps. Ces composantes ne sont pas dissociées, Seigneur, de la pureté, Seigneur, qu'il y a en toi. Parce que le sacrifice à la croix est un sacrifice qui est complet et qui englobe toute notre vie, Seigneur. Alors aide-nous. Aide, Seigneur, mes frères, mes sœurs, dans leur situation, dans leur réalité, aide-les, Seigneur, à se conserver purs. Aide-nous à vivre une vie, Seigneur, qui est agréable à toi et qui correspond à ce standard qui est requis, Seigneur, pour être de vrais serviteurs de Dieu. Que nous soyons encore plus doux, que nous soyons encore plus purs. Et Seigneur, que nous puissions fuir de toutes les façons qu'il est possible de fuir les passions, Seigneur, et les tentations du monde et les convoitises, Seigneur, qu'il y a dans la chair. Que nous puissions, Seigneur, nous tourner, porter nos regards vers les choses célestes, vers l'intégrité, la justice, Seigneur, la foi, la charité, la paix, qui représentent le standard de Jésus-Christ pour nous, Seigneur. Qu'on puisse se diriger vers cela et qu'on ne le fasse pas seul, Seigneur. Que nous puissions trouver des bien-aimés, Seigneur, dignes de confiance, d'un cœur pur, qui invoqueront ton nom, qui seront, Seigneur, ses partenaires de trajet, de service, qui vont être là pour prier, pour encourager, pour être redevables, Seigneur. Et c'est là aussi le service que tu attends les uns envers les autres, le service dans l'Église, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, prier les uns pour les autres, s'encourager, s'exhorter et être redevable, Seigneur. Donc, que mes bien-aimés puissent être entourés, Seigneur, puissent être accompagnés de personnes, Seigneur, qui correspondent à ces critères, pour ne pas marcher, Seigneur, tout seul, mais pour vivre, Seigneur, cette expérience merveilleuse qu'est la vie en toi, dans le corps de Christ, en tant que famille que nous sommes. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu réponds à nos prières, parce que tu nous ouvres davantage les yeux, tu nous fais voir encore plus pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, bon restant de semaine. Tâchons, faisons tous nos efforts pour nous conserver dans cette étape de pureté qui nous a été donnée à travers Jésus-Christ et à travers le sang de la croix. Et mettons en pratique la parole de Dieu. Fuyons, recherchons et entourons-nous de personnes qui vont nous aider dans cette quête. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et bonne soirée. Je vous dis, eh bien, je vous dis shalom. Bye bye.